42. La fin de la grande controverse. À l'expiration des 1000 ans, le Christ revient sur la terre. Il est accompagné de l'armée des rachetés et d'un cortège d'anges. Du haut de sa redoutable majesté, il ordonne aux morts impénitents de ressusciter pour recevoir leur châtiment. Les voici, une gigantesque armée aussi nombreuse que le sable de la mer. Mais quel contraste avec ceux qui se sont relevés lors de la première résurrection! Les justes avaient été revêtus d'une jeunesse et d'une beauté immortelles, tandis que les injustes, eux, portent les traces de la maladie et de la mort. Chaque œil, dans cette vaste multitude, se tourne pour contempler la gloire du Fils de Dieu. D'une seule voix, les armées des méchants s'exclament « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Ce n'est pas l'amour de Jésus qui leur inspire cette exclamation, mais c'est la puissance de la vérité qui l'arrache à leurs lèvres récalcitrantes. Tels ils ont été déposés dans leur tombeau, tels ils en sortent avec la même inimitié contre le Christ et le même esprit de rébellion. Ils ne bénéficieront pas d'un second temps de grâce pour remédier aux défauts de leur vie passée. L'expérience ne servirait à rien. Une vie entière de transgression n'a pas attendri leur cœur. Ils occuperaient ce second temps de grâce, s'il leur était accordé, à esquiver les exigences de Dieu et à susciter contre lui la rébellion. Le Christ descend sur le mont des Oliviers, d'où il est monté au ciel après sa résurrection et où les anges ont répété la promesse de son retour. Le prophète avait déclaré « Le Seigneur, mon Dieu, viendra, tous les saints seront avec toi. » Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu en une très grande vallée. Le Seigneur sera roi de toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera un et son nom un. Lorsque la nouvelle Jérusalem, d'une splendeur éblouissante, descend du ciel, elle se pose sur l'emplacement purifié et préparé pour la recevoir. Alors le Christ, accompagné de son peuple et de ses anges, pénètre dans la sainte cité. Et maintenant, Satan se prépare pour son dernier et terrible combat afin d'obtenir la suprématie. Lorsqu'il fut dépouillé de son pouvoir et séparé de son œuvre de tromperie, le prince du mal se sentit malheureux et abattu. Mais, à la vue de la résurrection des méchants et des grandes multitudes qui l'entourent, son espoir renaît. Il décide alors de ne pas abandonner la partie dans cette controverse entre le Christ et lui. Il rassemblera sous sa bannière toutes les armées des perdus et, par leur intermédiaire, s'efforcera de réaliser ses plans. Les méchants sont ses captifs. En rejetant le Christ, ils ont accepté la domination du chef rebelle et sont prêts à écouter ses suggestions et à exécuter ses ordres. Cependant, fidèle à la ruse qu'il a toujours utilisée, il ne se laisse pas reconnaître sous ses traits véritables. Il prétend être le prince légitime de ce monde dont l'héritage lui a été illégalement arraché. Trompant ses sujets, il se présente comme un rédempteur, en leur affirmant que son pouvoir les a fait sortir du tombeau et qu'il est sur le point de les délivrer de la plus cruelle tyrannie. La présence du Christ ayant été ôtée, Satan opère des miracles pour appuyer ses prétentions. Il remplit les faibles de force et leur insuffle à tous son propre esprit et sa propre énergie. Il leur propose de les conduire à l'assaut du camp des saints et de s'emparer de la cité de Dieu. Avec une exultation diabolique, il montre du doigt tous ceux qui ont été ressuscités des morts et affirme qu'étant leur chef, il est tout à fait capable de s'emparer de la ville et de reprendre son trône et son royaume. Dans cette immense foule se trouvent quantité de gens provenant des générations d'avant le déluge qui jouirent d'une longévité extraordinaire. Des hommes de haute stature et d'une grande intelligence qui, en cédant à la domination des anges déchus, consacrèrent toutes leurs capacités et leurs connaissances à l'exaltation d'eux-mêmes. Des hommes dont les magnifiques œuvres d'art amenèrent le monde à aduler leur génie, mais dont la cruauté et les inventions perverses souillèrent la terre et défigurèrent l'image de Dieu en eux, amenant le Créateur à les extirper de la face de la création. On y voit des rois et des généraux qui conquirent des nations, des combattants vaillants qui ne perdirent jamais une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler des royaumes. La mort n'a produit aucun changement en eux. En sortant du tombeau, le cours de leur pensée reprend exactement là où il avait cessé. ils sont animés du même désir de conquête qui était le leur lorsqu'ils tombèrent. Satan tient conseil avec ses anges, puis avec ses rois, ses conquérants et ses hommes puissants. Il mesure leur force et leur nombre et déclare que l'armée qui se trouve à l'intérieur de la ville est insignifiante comparée à la leur et qu'il sera facile de la vaincre. Ils font des plans pour s'emparer des richesses et de la gloire de la Nouvelle Jérusalem et immédiatement commencent à se préparer à la bataille. Des artisans habiles fabriquent des instruments de guerre. Des chefs militaires célèbres pour leur succès rassemblent ces foules d'hommes belliqueux et les organisent en compagnie et en division. L'ordre de marche est enfin donné et cette armée innombrable se met en route. Une armée comme aucun conquérant terrestre n'en a jamais rassemblé. Une armée que les forces combinées de tous les siècles guerriers ne pourraient jamais égaler. Satan, le plus puissant rebelle, est à l'avant-garde et ses anges unissent leurs forces pour ce combat final. Des rois et des attaquants sont dans son cortège. Des multitudes suivent, divisées en vastes compagnies, chacune sous les ordres d'un chef. Avec une précision militaire, elles avancent en rang serré sur la surface bouleversée et inégale de la terre en direction de la cité de Dieu. Sur l'ordre de Jésus, les portes de la Nouvelle Jérusalem se ferment. Les armées de Satan entourent la ville et se préparent à donner l'assaut. Le Christ apparaît de nouveau à la vue de ses ennemis. Très haut au-dessus de la ville, sur des fondations d'or poli, est dressé un trône très élevé. Sur ce trône siège le Fils de Dieu, entouré des sujets de son royaume. Aucun langage ne peut décrire sa puissance et sa majesté, aucune plume ne peut les représenter. La gloire du Père éternel enveloppe le Fils. L'éclat de sa présence remplit la cité de Dieu et déborde au-delà des portes, inondant la terre entière de son rayonnement. Tout près du trône se tiennent ceux qui, autrefois, avaient manifesté leur zèle pour la cause de Satan, mais qui, comme un tison arraché au feu, ont suivi leur sauveur avec une profonde et intense ferveur. Auprès d'eux se trouvent ceux qui se sont formés un caractère chrétien au milieu des erreurs et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu lorsque le monde la déclarait abolie, et les millions de ceux qui, au travers de tous les siècles, ont subi le martyre pour leur foi. Plus loin, campe la grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et des branches de palmiers à la main. Pour eux, le combat est terminé. Ils ont remporté la victoire. Ils ont disputé la course et obtenu le prix. La branche de palmier qu'ils tiennent à la main est un symbole de leur triomphe, et leur robe blanche un emblème de la justice immaculée du Christ qui est maintenant la leur. Les rachetés entonnent un cantique de louange, dont les échos se répercutent à l'infini sous les voûtes célestes. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Anges et séraphins unissent leurs voix en une même adoration. En contemplant la puissance et la malignité de Satan, les rachetés ont pris conscience, comme jamais auparavant, qu'aucun autre pouvoir que celui du Christ ne pouvait faire d'eux des conquérants. Dans toute cette foule resplendissante, personne n'attribue le salut à lui-même comme s'il avait obtenu la victoire par son propre pouvoir ou sa propre bonté. Pas un mot sur ce qu'ils ont pu faire ou endurer, mais le sujet de chaque cantique, le mot d'ordre de chaque hymne est « Le salut est à notre Dieu et à l'agneau ». En présence des habitants de la terre et du ciel rassemblés, se déroule le couronnement final du Fils de Dieu. Puis, investi de la majesté et du pouvoir suprême, le roi des rois prononce la sentence sur les rebelles qui se sont dressés contre son gouvernement et exécute les jugements sur ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. Le prophète de Dieu déclare « Je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. »
Alors que les registres célestes sont ouverts et que le regard de Jésus se pose sur les méchants, ces derniers prennent conscience de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils se rendent compte exactement à quel moment leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté, et jusqu'où leur orgueil et leur rébellion les ont entraînés dans la transgression de la loi de Dieu.
les tentations trompeuses qu'ils ont encouragées en cédant au péché, les bénédictions qu'ils ont perverties, les messagers de Dieu qu'ils ont méprisés, les avertissements qu'ils ont rejetés, les vagues de la miséricorde qu'ils ont repoussées par leur cœur obstiné et impénite, tout cela leur apparaît comme écrit en lettres de feu. Au-dessus du trône apparaît la croix, et, comme dans une vision panoramique, défilent les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, ainsi que les étapes successives du grand plan de la rédemption, l'humble naissance du Sauveur, ses premières années de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public qui offrit aux hommes les plus précieuses bénédictions du ciel, ses journées remplies d'actes d'amour et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille dans la solitude des montagnes. Les complots, inspirés par l'envie, la haine et la malice, qui récompensèrent ses bienfaits. La terrible et mystérieuse agonie dans le jardin de Gethsémané, sous le poids écrasant des péchés du monde entier. La trahison qui le livra aux mains d'une foule meurtrière. Les terribles événements de cette nuit d'horreur. Le prisonnier sans résistance, abandonné par les disciples qu'il aimait le plus, mené avec rudesse à travers les rues de Jérusalem. Le Fils de Dieu, conduit triomphalement devant Anne, puis dans le palais du souverain sacrificateur et dans le prétoire de Pilate, ensuite devant le lâche et cruel Hérode. Il fut raillé, insulté, torturé et condamné à mort. Tout cela est dépeint de manière saisissante. Puis, devant la multitude frémissante, apparaissent les scènes finales. L'homme de douleur, foulant patiemment le chemin qui mène au calvaire, le prince du ciel accroché à la croix, les sacrificateurs hautains et la populace moqueuse raillant son agonie, les ténèbres surnaturelles, la terre qui se soulève, les rochers qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent, marquant le moment où expira le Rédempteur du monde. Ce terrible spectacle se déroule exactement tel qu'il eut lieu. Satan, ses anges et ses sujets n'ont aucune possibilité de se détourner de cette scène, qui décrit leurs propres œuvres. Chaque acteur de ce drame se souvient du rôle qu'il y a joué. Hérode, qui fit massacrer les enfants innocents de Bethléem dans l'espoir de détruire le roi d'Israël, la ville Hérodiade, dont l'âme coupable est entachée du sang de Jean-Baptiste, Pilate, le faible et l'opportuniste, les soldats qui se moquèrent de Jésus, les sacrificateurs, les dirigeants du peuple et la foule hors d'elle-même, hurlant « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !» Tous contemplent maintenant l'énormité de leur culpabilité. Ils cherchent vainement à se cacher de la divine majesté de son visage, dont la gloire dépasse l'éclat du soleil, tandis que les rachetés jettent leur couronne aux pieds du Sauveur en s'exclamant « Il est mort pour moi !» Parmi la foule des rachetés se trouvent les apôtres du Christ. Paul l'héroïque, Pierre le bouillant, Jean le bien-aimé, à l'amour brûlant, leurs frères au cœur fidèle, et, avec eux, la vaste armée des martyrs. Tandis que, en dehors des murs de la ville, en compagnie de tout ce qu'il y a de vil et d'abominable, se trouvent ceux qui les persécutèrent, les emprisonnèrent et les mirent à mort. On y voit Néron, ce monstre de cruauté et de vice, contemplant le bonheur et l'exaltation de ceux qu'il fit torturer, et dans l'agonie desquels il trouva un plaisir satanique. Sa mère est là aussi pour être témoin des conséquences de ses propres œuvres. Elle constate que le caractère perverti qu'elle transmit à son fils est le résultat des passions que son influence et son exemple encouragèrent au développement chez lui et dont les fruits furent les crimes qui firent frémir le monde. On y voit des prêtres et des prélats de l'Église catholique romaine qui se disaient être les ambassadeurs du Christ et qui cependant utilisèrent le chevalet, le cachot et le bûcher pour dominer la conscience des vrais disciples du Sauveur. On y voit les orgueilleux pontifes qui s'exaltèrent au-dessus de Dieu et prétendirent changer la loi du Très-Haut. Ces soi-disant pères de l'Église ont des comptes à rendre à Dieu, dont ils souhaiteraient bien être dispensés. Trop tard, ils prennent conscience que le Dieu omniscient est jaloux de sa loi et ne tient pas le coupable pour innocent. Ils apprennent maintenant que le Christ identifie ses intérêts avec ceux de son peuple opprimé, et ils sentent la force de ses propres paroles. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'ensemble du monde impénitent se trouve accusé devant le tribunal de Dieu de haute trahison contre le gouvernement céleste. aucun avocat ne plaide leur cause. Ils sont sans excuse, et la peine de mort éternelle est prononcée contre eux. Pour tous, il est maintenant évident que le salaire du péché n'est ni une noble indépendance, ni la vie éternelle, mais l'esclavage, la ruine et la mort. Les méchants se rendent compte de ce qu'ils ont perdu par leur vie de rébellion. Ils ont méprisé le poids éternel de gloire qui leur était offert, comme il leur paraît désirable maintenant. « Tout ceci, s'écrie l'âme perdue, j'aurais pu le posséder, mais j'ai choisi de maintenir ces choses loin de moi. Étrange engouement, j'ai échangé la paix, le bonheur et l'honneur pour le malheur, l'infamie et le désespoir. » Tous se rendent compte que leur exclusion du ciel est juste. Par leur vie, ils ont déclaré « Nous ne voulons pas que cet individu, Jésus, règne sur nous. » Comme fascinés, les perdus ont assisté au couronnement du Fils de Dieu. Ils voient entre ses mains les deux tables de la loi de Dieu, ces statues qu'ils ont méprisées et transgressées. Ils sont témoins de l'explosion d'émerveillement, de ravissement et d'adoration qui provient des sauvés. Et, tandis que des vagues de mélodies flottent sur les multitudes rassemblées en dehors de la cité de Dieu, tous, d'une seule voix, s'écrient « Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Tes voix sont justes et vraies, Roi des nations. » Puis, se prosternant sur le sol, ils adorent le Prince de la vie. Satan semble être paralysé en contemplant la gloire et la majesté du Christ. Celui qui fut autrefois un kéroub, chérubin, protecteur, se souvient d'où il est tombé. Quel changement, quelle dégradation pour cet astre brillant, fils de l'aurore. Il est exclu pour toujours du conseil dans lequel il était autrefois honoré. Il voit maintenant quelqu'un d'autre se tenant près du Père et voilant sa gloire. Il voit un ange de haute stature et de prestance majestueuse placer la couronne sur la tête du Christ, et il sait que le poste élevé occupé par cet ange aurait pu être le sien. Sa mémoire lui rappelle la demeure de son innocence et de sa pureté, la paix et la satisfaction dont il jouissait jusqu'à ce qu'il se laisse aller à murmurer contre Dieu et à manifester sa jalousie envers le Christ. Ses accusations, sa rébellion, ses tromperies pour tenter d'obtenir la sympathie et le soutien des anges, son obstination à ne vouloir faire aucun effort en vue d'une réforme de sa vie, alors que Dieu souhaitait lui accorder son pardon. Tout cela lui revient avec netteté à la mémoire. Il se remémore son œuvre et ses conséquences. L'inimitié de l'homme envers ses semblables, la terrible destruction de la vie humaine, la naissance et la chute des royaumes, les trônes renversés, la longue succession de tumultes, de conflits et de révolutions. Il se souvient de ses efforts constants pour s'opposer à l'œuvre du Christ et faire tomber l'homme de plus en plus bas. Il se rend compte de l'impuissance de ses complots diaboliques à détruire ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. En contemplant son royaume, le fruit de ses travaux, il n'y voit qu'échec et ruine. S'il a fait croire aux foules que la cité de Dieu serait une proie facile, il sait que c'est faux. À de nombreuses reprises, dans le déroulement de la grande controverse entre le Christ et lui, il a été battu et forcé de céder. Il ne connaît que trop bien la puissance et la majesté de l'Éternel. L'objectif du grand rebelle a toujours été de se justifier et de rendre le gouvernement divin responsable de sa rébellion. C'est dans ce but qu'il a déployé toutes les ressources de sa prodigieuse intelligence. Il a agi délibérément et systématiquement et, avec un incroyable succès, a amené de vastes multitudes à accepter sa version du grand conflit entre le Christ et lui et qui fait rage depuis si longtemps. Pendant des milliers d'années, ce chef de la conspiration a fait passer ses mensonges pour la vérité. Mais le temps est maintenant venu où sa rébellion sera finalement vaincue. Son histoire et son caractère seront pleinement dévoilés. Dans un dernier gros effort pour détrôner le Christ et détruire son peuple en s'emparant de la cité de Dieu, le grand trompeur s'est trouvé totalement démasqué. Ceux qui se sont joints à lui prennent conscience de l'échec total de sa cause. Les disciples du Christ et les anges loyaux contemplent la pleine étendue de ses machinations contre le gouvernement divin. Il est l'objet de l'exécration universelle.
Satan se rend compte que sa rébellion délibérée l'a disqualifié pour le ciel. Il a utilisé ses facultés pour lutter contre Dieu. La pureté, la paix et l'harmonie du ciel seraient pour lui un supplice insupportable. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont maintenant réduites au silence. L'opprobre qu'il a tenté de jeter sur l'Éternel retombe tout entier sur lui-même. Maintenant, il s'incline et reconnaît l'entière justice de la sentence prononcée contre lui. « Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur ? Toi seul es saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice s'est manifestée. » Chaque question concernant la vérité et l'erreur, dans cette longue controverse entre le Christ et Satan, a maintenant reçu sa réponse. Les conséquences de la rébellion et du rejet des statuts divins ont été démontrées aux yeux de toutes les intelligences créées. La mise en application de la domination de Satan, en contraste avec le gouvernement divin, a été présentée à l'univers tout entier. Satan se trouve condamné par ses propres œuvres. La sagesse de Dieu, sa justice et sa bonté sont pleinement justifiées. On peut s'apercevoir que toutes les interventions de Dieu au cours de la grande controverse entre le Christ et Satan avaient pour objectif le bien éternel de son peuple et celui de tous les mondes créés. « Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. » L'histoire du péché demeurera pendant toute l'éternité comme un témoignage montrant que le bonheur de toutes les créatures est lié à l'existence de la loi de Dieu. Ayant sous les yeux tous les faits concernant la grande controverse entre le Christ et Satan, l'univers tout entier, aussi bien celui qui s'est montré loyal que celui qui s'est rebellé, déclare d'un commun accord. « Tes voies sont justes et vraies, roi des nations. » Devant l'univers a été clairement présenté le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme. L'heure est venue, pour le Christ, d'occuper la place à laquelle il a droit et d'être glorifié au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer. C'est en vue de la joie qu'il attendait, conduire beaucoup de fils à la gloire, qu'il a enduré la croix, méprisant la honte. Aussi inconcevablement grande qu'ait été pour lui la douleur et la honte, la joie et la gloire qui sont les siennes sont encore plus grandes. Il contemple les rachetés transformés à sa propre image, chaque cœur portant l'empreinte parfaite de la divinité, chaque visage reflétant la ressemblance au roi. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Il déclare alors, d'une voix qui atteint les multitudes assemblées des justes comme des méchants, « Voici ce que mon sang a racheté. J'ai souffert pour eux, je suis mort pour eux, pour qu'ils puissent demeurer en ma présence pendant tous les siècles de l'éternité. » Un cantique de louange s'élève de ceux qui, revêtus de robes blanches, entourent le trône. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Bien que Satan ait été forcé de reconnaître la justice de Dieu et de se prosterner devant la suprématie du Christ, son caractère demeure inchangé. Son esprit de rébellion, comme un torrent impétueux, jaillit de nouveau. Fou de rage, il décide de ne pas céder dans cette grande controverse entre le Christ et lui. Le moment est venu d'entreprendre un dernier assaut désespéré contre le roi du ciel. Il se précipite au milieu de ses sujets et s'efforce de leur insuffler sa propre furie et de les exciter à un combat immédiat. Mais, de tous ceux qu'il a trompés en les entraînant dans sa rébellion, aucun ne reconnaît sa suprématie. Son pouvoir a pris fin. Les méchants sont animés de la même haine de Dieu que celle qui inspire Satan. Mais ils se rendent compte que leur cas est sans espoir et qu'ils ne pourront pas l'emporter sur l'Éternel. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui lui ont servi d'agent dans ses tromperies, et, avec la furie de démons, ils se retournent contre eux. Le Seigneur avait déclaré « Parce que tu prends ton propre cœur pour celui d'un Dieu, je fais venir contre toi des étrangers, les pires brutes des nations. Ils tireront leurs épées contre ta belle sagesse et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse. Je te fais disparaître, kéroub, chérubin, protecteur, d'entre les pierres ardentes. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi, je te réduis en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Tu es un objet d'épouvante, tu n'es plus, tu ne seras jamais plus.
Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. La colère du Seigneur va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les frappe d'anathèmes, il les livre au carnage. Il fait pleuvoir sur les méchants des braises, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Le feu divin descend du ciel. La surface de la terre s'entr'ouvre. Les armes cachées dans ses profondeurs apparaissent. Des flammes dévorantes jaillissent de chaque abîme béant. Les rochers eux-mêmes sont en feu. Car il arrive, le jour, ardent comme une fournaise. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. La surface de la terre ressemble à une gigantesque masse de métal en fusion, un vaste lac de feu bouillonnant. C'est le jour du jugement et de la perdition des impies. Un jour de vengeance pour le Seigneur, une année de représailles pour la cause de Sion. Les méchants reçoivent leur châtiment, sur la terre. Ils seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées. Certains sont détruits presque instantanément, tandis que d'autres souffrent pendant plusieurs jours. Tous sont châtiés, selon leurs œuvres. Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci doit souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment dépassera de beaucoup le châtiment de ceux qu'il a trompés. Après que tous ceux qui sont tombés à cause de ses tromperies auront péri, il restera vivant et souffrira encore. Les méchants sont enfin détruits dans les flammes purificatrices. Il n'en reste rien, ni racine, ni rameau. Satan est la racine, ses disciples sont les rameaux. Le châtiment prévu par la loi a été entièrement infligé. Les exigences de la justice ont été satisfaites, et le ciel et la terre, contemplant cette scène, proclament la justice de l'Éternel. L'œuvre destructrice de Satan a pris fin pour toujours. Pendant 6000 ans, il a suivi sa propre volonté, remplissant la terre de souffrance et l'univers de chagrin. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Mais maintenant, les créatures de Dieu sont délivrées pour toujours de la présence et des tentations de Satan. Tout le pays jouit du repos et de la tranquillité. On éclate en cris de joie. Un cri de louange et de triomphe monte de tout l'univers loyal. J'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de forts tonnerres, qui disait « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Tandis que la terre était enveloppée des feux de la destruction, les justes demeuraient en sécurité dans la sainte cité. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Tandis que Dieu est pour les méchants un feu dévorant, il est pour son peuple un soleil et un bouclier.
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le feu qui consume les méchants purifie la terre. Toute trace de la malédiction disparaît. Aucun enfer brûlant éternellement ne gardera sous les yeux des rachetés les effroyables conséquences du péché. Un seul souvenir subsistera. Notre Rédempteur portera toujours les marques de sa crucifixion. Sur sa tête meurtrie, sur son flanc, sur ses mains et ses pieds, on peut voir les seules traces restantes de l'œuvre cruelle réalisée par le péché. Le prophète, contemplant le Christ dans sa gloire, avait dit « Des rayons partent de sa main, la voilà, sa force cachée. » Ce flanc percé d'où jaillit le flot écarlate qui produisit la réconciliation de l'homme avec Dieu, voilà la gloire du Sauveur, la voilà, sa force cachée. Puissant pour sauver par son sacrifice rédempteur, il a donc aussi l'autorité pour exécuter la justice sur ceux qui ont méprisé la miséricorde de Dieu. Les signes de son humiliation se trouvent être son plus grand honneur. Au travers de tous les siècles de l'éternité, les blessures du calvaire manifesteront sa louange et proclameront sa puissance. Et toi, tour du troupeau, Ophel, colline de Sion la belle, à toi reviendra la domination première. Le moment tant attendu avec un ardent désir par les hommes de Dieu depuis que l'épée flamboyante de l'archange chassa le premier couple du jardin d'Éden, le temps de la rédemption de ce qu'il s'est acquis, est enfin arrivé. La terre, confiée à l'homme à l'origine pour être son royaume, abandonnée par lui entre les mains de Satan et si longtemps détenue par cet adversaire redoutable, a été redonnée à l'homme par le grand plan de la rédemption.
tout ce qui avait été perdu par le péché a été restauré. Ainsi parle le Seigneur qui façonne la terre et la forme, lui qui l'a fermée, qui ne l'a pas créée chaos, mais qui l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Le plan originel de Dieu quand il créa la terre est réalisé. Celle-ci devient la demeure éternelle des rachetés. Les justes posséderont le pays et y demeureront à jamais. La crainte de dépeindre l'héritage futur de manière trop matérielle a conduit de nombreuses personnes à spiritualiser les vérités qui nous font considérer cet héritage comme notre demeure. Le Christ a donné à ses disciples cette assurance. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne seront pas laissés totalement dans l'ignorance au sujet de notre demeure céleste. Cependant, elle contient ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Le langage humain est insuffisant pour décrire la récompense des justes. Seuls ceux qui la verront pourront la connaître. Aucun esprit limité ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Dans la Bible, l'héritage des saints est appelé une patrie. C'est là que le céleste berger conduit son troupeau vers la source de l'eau de la vie. On y voit un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. On y voit des fleuves intarissables, limpides comme du cristal, bordés d'arbres qui ondulent dans le vent, projetant leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés du Seigneur. Les vastes plaines s'étendent au loin pour rejoindre de magnifiques collines, et les montagnes de Dieu dressent leurs sommets altiers. C'est dans ces plaines paisibles, auprès de ces fleuves vivants, que les enfants de Dieu, si longtemps étrangers et résidents temporaires sur la terre, trouveront leur demeure. Mon peuple habitera dans un domaine de paix, dans des demeures de confiance, dans des lieux de repos tranquilles. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages ou de désastres dans ton territoire. Tu donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes celui de louange. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Ceux que j'ai choisis jouiront de l'œuvre de leurs mains. Le désert et le pays desséché s'égayeront. La plaine aride tressaillira d'allégresse et fleurira comme le narcisse. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau. Un petit garçon les conduira. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée. Voilà les promesses du Seigneur. La souffrance ne peut exister dans l'atmosphère du ciel. Il n'y aura plus de larmes, plus de cortèges funèbres, aucun signe de deuil. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Aucun de ceux qui demeurent là ne dit « Je suis malade ». Le peuple qui habite là voit sa faute pardonnée. C'est là que se trouve la Nouvelle Jérusalem, capitale de la Nouvelle Terre glorifiée. Une couronne de splendeur dans la main du Seigneur. Un turban royal dans la paume de ton Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le Seigneur avait déclaré « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. » La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Dans la cité de Dieu, la nuit ne sera plus. Personne n'aura besoin de repos ou ne désirera en prendre. Accomplir la volonté de Dieu et louer son nom ne produiront aucune fatigue. Nous sentirons toujours la fraîcheur du matin et serons toujours éloignés de sa fin. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. La lumière du soleil sera dépassée par une clarté qui, sans être douloureusement éblouissante, surpassera infiniment l'éclat du plein midi. La gloire de Dieu et de l'agneau inonde la sainte cité d'une lumière qui ne faiblit jamais. Sans avoir besoin du soleil, les rachetés marchent dans la gloire d'un jour perpétuel. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau.
le peuple de Dieu a le privilège de jouir d'une communion permanente avec le Père et le Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Nous contemplons l'image de Dieu, reflétée comme dans un miroir, dans les œuvres de la nature et dans ses interventions en faveur des hommes. Mais nous le verrons face à face, sans l'interposition d'un voile qui nous le montre d'une manière confuse. Nous nous tiendrons en sa présence et contemplerons la gloire de son visage. Les rachetés peuvent dire aujourd'hui « Alors je connaîtrai comme je suis connu ». L'amour et la sympathie que Dieu lui-même a implantés dans notre âme trouveront là leur épanouissement le plus authentique et le plus doux. La pure communion avec des êtres saints, la vie sociale harmonieuse auprès des anges bienheureux et des fidèles de tous les siècles qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau, les liens sacrés qui unissent toute famille dans les cieux et sur la terre, tout cela constituera le bonheur des rachetés. Les esprits immortels contempleront avec une joie toujours renouvelée les merveilles de la puissance créatrice, les mystères de l'amour rédempteur. Il n'y aura aucun ennemi cruel et trompeur pour les inciter à oublier Dieu. Chaque faculté se développera, chaque capacité augmentera. L'acquisition de la connaissance ne fatiguera pas l'esprit et n'épuisera pas les énergies. Les entreprises les plus élevées pourront être menées à bien, les plus hautes aspirations atteintes, les plus hautes ambitions réalisées. Et cependant, il restera encore de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à comprendre, de nouveaux objets qui solliciteront les facultés mentales, psychiques et physiques. Tous les trésors de l'univers seront ouverts à l'étude des rachetés de Dieu. Sans être handicapés par une nature mortelle, ils visiteront sans fatigue des mondes éloignés, des mondes qui ont été plongés dans le chagrin en voyant la souffrance humaine, mais qui ont éclaté en chants d'allégresse à chaque annonce d'une âme rachetée. Avec une joie inexprimable, les enfants de la terre entrent dans la joie et dans la sagesse d'être qui ne sont jamais tombés. Ils partagent les trésors de connaissances et de compréhension acquis au travers des siècles dans la contemplation des œuvres de Dieu. Avec une vision sans faille, ils contemplent la gloire de la création, soleil, étoiles, système solaire, chacun à la place qui lui a été attribuée, entourant le trône de Dieu. Le nom du Créateur est écrit sur toute chose, de la plus petite à la plus grande, et en toutes sont déployées les richesses de sa puissance. Les années de l'éternité, en s'écoulant, apporteront des révélations de plus en plus riches et de plus en plus glorieuses de Dieu et du Christ. De même que la connaissance est progressive, de même l'amour, le respect et le bonheur iront aussi en augmentant. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus grande sera leur admiration de son caractère. Au fur et à mesure que Jésus dévoilera devant leurs yeux les richesses de la rédemption et les étonnantes interventions divines dans la grande controverse entre le Christ et Satan, le cœur des rachetés vibrera d'une ferveur toujours plus profonde, et c'est avec une joie toujours plus enthousiaste qu'ils joueront de leur harpe d'or. Des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers, de voix s'unissent pour augmenter le puissant cœur de louange. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » La grande controverse entre le Christ et Satan a pris fin. Le péché et les pécheurs n'existent plus. Tout l'univers est propre. Un seul sentiment d'harmonie et de joie remplit la vaste création. La vie, la lumière et la joie coulent de celui qui a créé toute chose, dans toute l'étendue de l'espace infini. Depuis le plus minuscule atome jusqu'au monde le plus grand, toutes choses, animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et dans leur joie parfaite, proclament que Dieu est amour.